trop chaud. Pas bouger.
Bon été sur Radio Surfé. Ce que vous allez entendre est une rediffusion.
C'est du réchauffé ?
Non.
C'est Radio Surfé.
La Collective, c'est une émission hebdomadaire.
C'est à plusieurs, c'est ensemble.
C'est local.
C'est un mélange, la Collective.
C'est des interviews,
de l'actualité,
des chroniques, des reportages,
de la musique.
C'est divers et c'est varié.
La Collective, c'est ta voix.
C'est ma voix.
C'est nos voix. C'est tout de suite et c'est maintenant sur Radio Surférieur.
Radio Armand. La radio de la cité Armorin.
Bonjour et bienvenue sur Radio Saint-Ferréol. Vous êtes sur l'émission La Collective, animée aujourd'hui par le club Radio Armorin du Collège Armorin. Nous sommes Thibaut et Maëlle et nous serons vos animateurs pour cette émission, basée sur les coups de cœur des élèves participant au club.
Radio Armorin est un club pour les collégiens qui nous réunit chaque semaine au studio radio du CDI les mardis de 12h à 13h.
Dans cette émission, il y aura
une chronique de Vincent sur l'impression 3D.
On écoutera aussi l'émission que nous avons produite pour le concours Zéro Cliché sur les stéréotypes de genre dans les mangas.
Une musique choisie par Fleur.
Une interview d'un célèbre dessinateur qui habite à Cri, Fafa, célèbre pour avoir produit des séries animées comme Wakfu.
Une chronique sur la musique pop par Kayla.
Une chronique sur la série d'animation The Amazing Digital Circus par Célia et Arthur.
Et enfin, une chronique par Maëlle sur un jeu de gestion Satisfactory.
Maintenant, on écoute Vincent sur l'impression 3D.
Eh bien bonjour, je m'appelle Vincent, je suis élève de 3e et aujourd'hui je vais vous présenter l'une de mes nombreuses passions, l'impression 3D. Pour commencer, petit cours d'histoire. L'impression 3D aux fabrications additives, son nom d'origine, fut brevetée le 16 juillet 1984 par trois Français. Ah qu'est-ce qu'on est fort hein, quand même hein. Très peu de temps après, l'américain Charles Hull créa le format de fichier STL, très connu par les modélisateurs 3D. Et ce sera son entreprise 3D Systems qui, en 1988, lancera la SLA 250, la première imprimante 3D commerciale. Au fur et à mesure, d'autres personnes rajouteront leur découverte à l'impression 3D. C'était le petit cours d'histoire du professeur Vincent. L'impression 3D a gagné énormément de popularité grâce aux réseaux sociaux. Les gens adoraient voir une machine qui était capable de créer leurs figurines préférées ou tout plein de babioles diverses et variées. L'impression 3D prend de plus en plus d'ampleur dans l'industrie. Grâce à cela, de nombreuses firmes 3D ont vu le jour. Et non, l'impression 3D n'est pas réservée aux professionnels. Et il n'y a pas non plus besoin d'avoir des énormes connaissances en technologie et l'impression 3D est aussi plutôt accessible. Par exemple, pour plus de 150€, vous pourrez avoir des imprimantes très qualifiées, comme par exemple mon imprimante, la A1 Mini de chez Bamboo Lab, que vous aurez pour 200€. Cette émission ne contient aucune collaboration. Mais aussi, même si celles-là sont plutôt réservées aux bricoleurs, car il est rare de trouver une bonne imprimante en dessous de 50€, vous pouvez en trouver en occasion. Et si vous êtes jeune, intéressé par l'impression 3D, il y a le Fab Lab à Cré, qui est ouvert le mercredi de 16h à 18h, pour vous laisser modéliser des pièces et les imprimer gratuitement. Allez quand même vérifier les informations. Et si vous êtes collégien à Armorin, le mardi de 13h à 14h, il y a le Club Maker, un super club où on apprend à modéliser en 3D et on peut imprimer ses créations.
Merci Vincent pour cette chronique très intéressante. N'hésitez pas à aller au Fab Lab pour essayer de vous essayer à l'impression 3D.
Merci pour cette super chronique Vincent qui n'a pas pu être avec nous dans notre studio car il est en randonnée ou trois becs avec les classes de 3e du Collège Armorin.
Nous allons maintenant écouter notre podcast. Nous avons réalisé ce podcast pour le concours Zéro Cliché, Égalité Filles-Garçons, organisé par le CLEMI. C'est le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information.
Un organisme qui s'occupe des liens entre les médias et l'éducation nationale.
Et nous voulons vous dire qu'on a gagné le concours Zéro Cliché. Nous irons à Paris le mardi 9 juin pour la remise des récompenses. Nous sommes super fiers de nous. Voici notre podcast qui a le Grand Prix catégorie collège.
Bonjour et bienvenue sur Radio Armo. On est vos animatrices du jour, moi c'est Célia.
Et moi c'est Fleur. Aujourd'hui, on vous emmène dans un univers adoré par plein de jeunes lecteurs, le manga. Un phénomène mondial qui a déjà conquis plusieurs générations de lecteurs.
Et de lectrices.
Certains mangas sont extrêmement populaires, comme One Piece et Fairy Tail. Pour être honnête, au début, j'ai eu du mal à m'habituer au sens de lecture du manga. Maintenant, je suis tellement habituée que je tourne parfois les pages des BD à l'envers. Et toi, comment t'es tombée dans cet univers ?
C'est une amie qui m'a fait découvrir les mangas, et j'en suis sincèrement tombée amoureuse. Mais à force d'en lire, j'ai remarqué pas mal de stéréotypes. Et toi, tu en as repéré ?
Oui, surtout la manière dont les corps des jeunes filles sont dessinés. C'est souvent très accentué et ça peut influencer les jeunes lecteurs.
Je suis d'accord. Et du côté des garçons, c'est pareil. Des muscles énormes, des silhouettes idéalisées. Les mangaka jouent beaucoup sur l'exagération pour faire rêver.
Et pendant que certains personnages sont parfaits, d'autres, souvent les méchants ou les personnages comiques, sont dessinés avec des traits physiques tournés en dérision. Obésité, maigreur, petite taille.
Heureusement, ce n'est pas le cas partout. Par exemple, Spy Family est beaucoup plus raisonnable. Les corps sont réalistes et les dessins moins stéréotypés.
Avec le club radio, on s'est demandé si d'autres élèves avaient remarqué ces stéréotypes. N'est-ce pas, Aïla ?
On est donc allé leur poser la question. Voici le micro-trottoir réalisé par Fleur, Maëlle, Kayla, moi, Aïla, Camille et Arthur.
Que pensez-vous de la représentation des filles et des garçons dans les mangas ?
Les filles, elles doivent avoir des belles formes et les hommes, ils doivent être très musclés. Enfin, ça dépend quel manga.
Bah, moi, je trouve que les filles sont bien plus sexuées que les garçons et que les garçons ont une musculature très exagérée.
Suivant lesquels tu prends, c'est plus ou moins cliché, mais surtout dans les vieux mangas. Mais après, ça, c'est quelque chose qui s'améliore par rapport aux mangas plus récents.
Pour aller plus loin, nous avons aussi interviewé Oscar De Vogel, attaché de presse chez Glénat, le premier éditeur de manga en France.
Interview réalisée par Célia, Maëlle, Arthur et Aïla.
Mon point de vue sur ce sujet, c'est que aujourd'hui encore, le manga est un genre avec beaucoup de stéréotypes, même si on arrive à trouver des récits qui permettent de s'émanciper. Chaque récit, chaque série va être classée dans des cases prédéfinies en plusieurs genres, avec le genre shonen, qui est le genre d'aventure qui est traduit, on va dire, de manière littérale, récit pour enfants, pour jeunes garçons. Il y a aussi le genre shoujo, qui est le récit pour jeunes filles. Après, il y a le shonen, récit pour le jeune adulte. Donc, en fait, de base, on a des attentes. Dans un shonen, les garçons doivent être gentils, musclés, un peu débiles pour certains, et doivent surtout croire au pouvoir de l'amitié. Dans les mangas de shoujo, les jeunes filles doivent être fragiles, douces, aimantes, très gentil, etc. Du coup, en fait, chaque genre à part entière a des stéréotypes qui sont aujourd'hui assez durs de casser, de briser, même si les nouveaux auteurs, la nouvelle génération d'auteurs au Japon essayent de se libérer de ces chaînes, si on peut dire ça, qui sont assez anciennes, effectivement.
Nous lui avons également demandé si Glénat souhaitait faire évoluer ses représentations. Voici sa réponse.
La stratégie éditoriale de chez Glénat est de éditer les nouveaux mangas de demain et éviter effectivement les mangas trop stéréotypés avec beaucoup de redites. Enfin, vraiment, la maison d'édition Glénat souhaite publier de la qualité avec des nouveaux auteurs afin de permettre aux mangas d'évoluer et de permettre aussi aux lecteurs français de découvrir de nouvelles histoires, de nouvelles récits et de pas rester seulement dans les acquis comme peut être Naruto, Dragon Ball Z, One Piece, qui sont effectivement des grosses machines, mais qui sont basées sur l'ancien modèle manga qui est vraiment très stéréotypé.
C'est déjà la fin de cette émission consacrée au manga et aux stéréotypes de genre qu'on peut y trouver. On espère que ce petit voyage vous aura permis de mieux comprendre comment ces codes se sont installés et pourquoi ils sont parfois difficiles à changer.
En France, la bande dessinée évolue dans une culture où la liberté artistique et la diversité des corps sont de plus en plus encouragées. Au Japon, les mangas s'inscrivent dans une tradition différente avec des attentes du public très fortes, ce qui explique que certains stéréotypes persistent encore aujourd'hui.
Mais comme on l'a vu avec les élèves et nos invités, le manga reste un univers très riche qui évolue lui aussi et où de plus en plus d'auteurs cherchent à proposer autre chose. Et ça, c'est plutôt prometteur.
Un grand merci à Florent Chambert, à Radio Saint-Ferréol et tout particulièrement à France Vélier, aux élèves interviewés, à Oscar De Vogel, des éditions Glénat et à toute l'équipe radio. Arthur,
Kayla,
Ayla,
Maël,
Vincent,
Émile et bien sûr, à nous,
Fleur et Célia.
Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Radio Armo pour une nouvelle émission.
Et voilà pour le podcast.
Et maintenant, on écoute A Kind of Magic, une musique choisie par Fleur. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way.
Merci Fleur pour ce choix musical.
Et maintenant, dans le studio de Radio Saint-Ferréol, nous avons la chance d'être en direct avec le célèbre dessinateur Fafa. Cette interview est réalisée par Ayla et Fleur.
C'est à vous.
Bonjour.
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 Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous sommes Ayla et Fleur. Pour commencer notre interview, pouvez-vous vous présenter ?
Eh ben bonjour, je m'appelle Fafa, je suis déjà venu plusieurs fois dans ce studio et cette émission. Je suis auteur de BD et storyboarder dans le dessin animé, principalement.
En quoi consiste votre métier ?
Alors, mon métier, je vais plutôt parler de l'animation. Donc, ça consiste, dès que vous avez une prod animée en 2D ou en 3D, vous allez avoir un déroulé du scénario en dessin. Ça va servir un peu de structure de base pour pouvoir réaliser tous les plans du projet d'animation que vous avez. En gros, on peut dire que ça ressemble un petit peu à une BD, mais qui va avoir... c'est juste sur l'écran, il n'y a qu'une seule case, et il va y avoir un timing, une durée des images. Donc vous avez en gros une version un peu brouillon du dessin animé que vous regarderez après. Ça sert de support et de guide pour la production.
Avec quelle profession travaillez-vous au quotidien ?
Alors, quand je fais du dessin animé, les personnages sont déjà créés, les personnages, les décors. Donc, je vais travailler avec un chef board et un réalisateur. Donc, le chef board, il s'assure que les dessins que je produis et la manière dont je raconte l'histoire sont conformes aux intentions du réalisateur. Je dirais que c'est l'essentiel. Il y a aussi les chargés de prod. C'est des personnes qui vont me donner tous les éléments en amont et assurer les suivis, s'assurer que j'ai les décors, les personnages, s'il me manque des éléments, je reviens vers les chargés de prod. Et je dirais que c'est les personnes essentielles. Il doit y avoir d'autres personnes, mais là, comme ça, j'ai pas en tête.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Alors, je me suis mis dans le dessin animé parce que j'ai toujours été passionné de dessin animé. Quand j'étais petit, je regardais les Tortues Ninja, les Dragon Ball, etc. Donc, j'ai toujours dessiné. C'est que plus tard que j'ai envisagé que ça pouvait être une profession. Presque un peu par hasard, je cherchais un petit peu les débouchés possibles, je regardais la BD, le dessin animé, et j'ai eu vent de l'école qui s'appelle l'école des Gobelins. C'est une école un peu réputée en animation, et j'ai passé le concours deux fois, et la deuxième fois je l'ai eu et je me suis retrouvé dans le dessin animé. Alors pour aller vite, faut savoir qu'il y a beaucoup de corps de métier dans le dessin animé. Storyboard, c'est qu'une partie du dessin animé, et je me suis tourné vers le storyboard, voilà.
Vous pouvez nous parler un peu de qu'est-ce qu'est l'école des Gobelins, des Gobelins ?
Alors, pour revenir un petit peu sur l'école des Gobelins, à l'époque, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans, il y avait eu un reportage qui était passé sur M6 qui avait fait la promotion de cette école et qui avait donné beaucoup de visibilité à ces débouchés professionnels. Donc, je l'avais vu un peu comme ça, mais je n'étais pas vraiment sûr que c'était ce que je voulais faire. À l'époque, je faisais des fanzines. Et de fil en aiguille, j'ai présenté ce concours et j'ai été pris. Donc à l'époque, c'était en 3 ans. On était spécialement formés sur la 2D. Et il y a eu des cursus 3D, donc il y a un mélange de 2D et 3D. Donc c'est une école assez réputée où les studios tels que DreamWorks, Disney, ils venaient recruter directement. Donc l'école avait des liens assez étroits avec l'industrie française et aussi américaine qui était très florissante à l'époque et encore aujourd'hui. Donc les Gobelins, c'est un peu ça. Et ce qui faisait un peu la spécificité, c'est que quand j'ai passé le concours, alors c'est un concours avec plus de 700 personnes qui se présentent pour 25 places. Donc il y a quelque chose de l'ordre du mérite. Donc on disait, si vous travaillez assez, si vous avez le niveau, c'est envisageable. Donc c'est ce qui m'a un peu poussé là-dedans. Alors maintenant, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'écoles privées. La situation des écoles a un peu évolué. Mais moi, quand je suis rentré dans cette école, c'était un peu dans cette optique, dans ces perspectives-là.
Et quelles études avez-vous faites ?
Eh ben, surtout les Gobelins. Avant ça, j'avais fait un bac littéraire. Et entre les deux, je suis allé dans une école de graphisme en Belgique qui s'appelle l'Institut Saint-Luc. Donc j'ai échoué lamentablement. Mais ça m'a quand même servi comme une prépa. Ça m'a permis de beaucoup dessiner, de me former. Puis aussi de savoir un peu plus précisément vers quoi j'avais envie de tendre en tant que travail. Donc je dirais bac littéraire art plastique. Un an d'école plus ou moins prépa et 3 ans de Gobelins et après le monde du travail.
Qu'est-ce que vous préférez dans votre profession ?
Alors moi, ce que j'aime bien, c'est donner vie aux personnages, c'est-à-dire que ce soit en BD ou en animation, par le vecteur du dessin, on arrive à raconter des histoires, à faire vivent différents personnages, incarner plusieurs personnages, des personnages qui vous ressemblent, des personnages qui vous ressemblent pas. Et quand on réussit un peu ça, il y a un petit truc un peu magique qui fait que on a l'impression de vivre avec les personnages, alors qu'ils n'existent pas. Mais on a des vrais sentiments quand on les fait vivre et quand on voit les autres prendre du plaisir à les voir vivre.
Quelles difficultés rencontrez-vous dans votre métier ?
En ce moment, je dirais trouver du travail. C'est un peu la crise. Donc ça, c'est un peu une difficulté. Donc ça, c'est le contexte périphérique. Et je dirais aussi, quand je fais vraiment le travail de dessin, faut réussir à capter les intentions de l'histoire. Ça, c'est un peu difficile. C'est pas une science exacte. Des fois, on est un peu en connexion avec ce qui est raconté et c'est un peu fluide. Et des fois, on a un peu du mal selon les intentions de réalisation, selon les ce qu'on doit raconter. Ça va être plus ou moins évident, fluide. Et des fois, faut vraiment un petit peu charbonner pour être dans le bon ton. Et puis souvent, vous pouvez apprécier ce que vous faites, mais c'est d'abord une prestation technique. Donc, faut que ça réponde à la fois aux exigences pratique du travail et aussi aux intentions du réalisateur. Donc, pour avoir bossé avec différents réalisateurs, des fois il y en a un, ou réalisatrices d'ailleurs, des fois il y en a un qui a une vision et vous êtes sûr de ce que vous faites et lui il dit ah non, c'est pas du tout ça. Et là, on sort un peu les rames pour répondre aux exigences. On n'est pas dans sa tête, quoi. Voilà.
Où peut-on voir votre travail ?
Alors, mon travail, on peut le voir sur. Principalement Instagram, j'ai deux Instagram, donc un Instagram où je mets des choses un peu perso pour le fun et pour rester un petit peu vivace quoi, et un autre où je mets les planches de BD et l'évolution de mon travail sur ma BD.
Quel est votre prochain projet ?
Alors, mon prochain projet, c'est la BD justement, c'est vraiment le projet auquel j'accorde le plus de temps. Ça fait plusieurs années que je suis dessus et ça avance à son rythme. Bon, faut savoir que la BD, c'est assez long, il y a un long processus pour le mettre en place. Mais c'est mon prochain projet que j'espère finir, espérons, dans un an et demi. Mais j'étais déjà venu ici pour en parler, donc ça avance petit à petit. Mais c'est là où je mets le maximum d'énergie, c'est ma bande dessinée.
Bah, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes heureux d'avoir pu vous recevoir. À bientôt sur Radio Armo.
Au revoir.
Au revoir.
Merci beaucoup, Fafa, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'était très intéressant et à bientôt.
Nous allons écouter maintenant une chronique sur la musique pop par Kayla. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.
And we're turning the floor into a zoo. La pop. La pop est un style de musique apparu au début des années 1960 en Grande-Bretagne, puis aux États-Unis. Dérivé du rock'n'roll, du folk song et de la musique country, enrichie d'influences diverses. Musique classique, électronique, indienne, etc. etc. On prononce la musique pop ou la pop. Qui a inventé la pop ? Quelle est la musique pop la plus connue ? Je vais vous le dire tout de suite. La pop a été inventée par les Beatles dans leur premier album Rubber Soul. La musique pop la plus connue est Billie Jean de Michael Jackson, interprétée en 1982. Pourquoi j'ai choisi la pop ? J'ai choisi la pop car c'est un style de musique que j'aime beaucoup et que j'ai découvert dans le film K-pop Demon Hunter, dont vous connaissez tous sûrement, et écouté dans les musiques de Maître Gims.
Merci Kayla pour cette chronique sur la pop.
Voici maintenant la chronique sur la série d'animation The Amazing Digital Circus par Célia et Arthur.
On vous écoute.
Vous avez peut-être déjà entendu cette musique ou encore le nom de la série phénomène qui est The Amazing Digital Circus. Plus connue sous les initiales TADC, cette série américaine disponible sur Netflix et YouTube est devenue un incontournable de l'animation indépendante en un temps record.
Imaginée par Gooseworks et animée par Glitch, elle est doublée en 21 langues au total.
En France, c'est le studio Abyss qui s'occupe des voix des différents personnages. Il s'agit de l'histoire de Pomni, jeune femme de 25 ans qui, un jour, après avoir mis un mystérieux casque sur la tête, se retrouve coincée dans un cercle numérique peuplé d'autres humains. Chacun possède une nouvelle apparence en fonction de son état d'esprit. Pomni se retrouve ainsi dans le corps d'un clown.
L'endroit se trouvait sous le contrôle d'une curieuse intelligence artificielle nommée Kane. Celle-ci a la lubie de faire participer les habitants du cirque à des aventures créées par ses soins. Il s'agit de mondes à part entière créés numériquement pour que Pomni et ses amis vivent des péripéties dans des royaumes enchantés comme des manoirs hantés.
Nous aimons beaucoup cette série grâce à sa thématique colorée et ses personnages chaleureux qui contrastent parfaitement avec ce qui est dit et ressenti.
Malgré tout, la série est déconseillée au moins de 13 ans à cause des thématiques psychologiques sombres apparaissant au fil des épisodes.
Et maintenant, nous allons écouter un extrait de l'épisode 1 de la série.
Comme ton nom ?
Mon nom ? Je m'appelle... Oh non ! Pourquoi j'arrive pas à m'en souvenir ?
Personne ne se souvient de son nom une fois arrivé dans le cirque numérique. L'une des rares choses que je ne contrôle pas, c'est vos esprits. Donc tout ce que je peux faire, c'est aider à en trouver un nouveau.
Mon prénom...
Ne t'en fais donc pas, petite tête. Ton nouveau nom peut être n'importe quoi. Offre soumise à condition. Le nom choisi par l'arrivant ou l'arrivante ne peut contenir de propos injurieux, notamment à caractère raciste, sexiste, homophobe ou validiste. Il ne peut pas contenir non plus d'allusion sexuelle implicite ou explicite, ni de juron ou autre vulgarité. Qu'est-ce que tu en penses?
Peu importe, choisis ce que tu veux.
Voyons voir. Qu'est-ce que tu penses de X?
Je sais.
C'est vrai, atroce, trop autre chose. Qu'est-ce que tu penses de Pomni?
Hein? Oui, bien sûr. Je pense que je vais...
Youplaboum, oui, Jax. Quoi de mieux qu'une aventure pour accueillir notre nouvelle comparse, Pomni?
J'ai dit ça il y a genre 5 minutes.
Toi, tu aimes les aventures? Les activités? Les merveilles, le danger, l'horreur, la douleur, la souffrance, l'agonie, la mort, la maladie, la mort! Ou du gâteau?
C'était un extrait de The Amazing Dita Circus. Et maintenant, nous allons continuer la collective.
Merci pour cette super chronique.
Célia et Arthur qui n'ont pas pu être avec nous dans notre studio car elles sont en randonnée au Trois-Bec avec les classes de 3e du collège Armorin. Et enfin, la chronique par Maëlle sur un jeu de gestion Satisfactory. C'est à toi Maëlle.
Dans cet essai, je vais vous présenter le jeu Satisfactory en 3 temps. Le but, pourquoi y jouer et l'univers. Dans Satisfactory, vous incarnez un ingénieur de la société FISCSIT. Et vous êtes dans une capsule et largué sur une planète extraterrestre. Et votre objectif est de construire différents bâtiments et de les relier ensemble afin de créer une usine entièrement automatisée pour édifier un ascenseur spatial. Pourquoi ? Car Satisfactory te permet de faire des usines. On peut y jouer en multijoueur. L'univers ? Dans Satisfactory, vous êtes sur une partie appelée dans le jeu votre secteur désigné par IFICSIT et une petite partie de la planète appelée Message 2B dans le système solaire binaire d'Akisha. Vous pouvez créer des tapis roulants convoyeurs de MK1 à MK5. Vous pouvez aussi créer des extracteurs d'eau ou des foreuses, etc. Et voilà pour mon coup de cœur.
Merci Maëlle.
Et voilà pour cette émission.
Merci à Madame Chambert,
Fleur,
Kayla,
Arthur,
Maëlle,
Célia,
Vincent,
Thibaut.
Et merci à Radio Saint-Ferréol pour cette collective et à bientôt sur Radio Armo.
Radio Armo.
La radio de la cité Armorin.